En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, connaissez-vous l'écrivain Joé Bousquet ? Cet homme eut un destin à la fois tragique et passionnant, une vie digne d'un film ou d'un livre que vient de publier l'auteur Édith de la Héronnière, un livre intitulé Joé Bousquet, une vie à corps perdu, paru en 2006 aux éditions Albin Michel. Pour mieux comprendre le personnage, je vous propose de lire quelques lignes écrites par Joé Bousquet lui-même. « Je m'appelle Joé Bousquet, je suis né et mort deux fois. » J'étais un enfant capricieux, on m'appelait l'homme-chien. Ma cruauté m'avait acquis ce sobriquet. Adolescent, on me disait un mauvais garçon, pourtant j'étais fils de bonne famille, languedocienne, mon père médecin, mon oncle chirurgien. En 1916, à 19 ans, je devance l'appel. J'ai un désir de guerre, une volonté d'en découdre. Avec ça, je gagne des galons et des médailles, j'avance. Je suis blessé une première fois. Grâce à ce courage de tous les diables, je suis l'officier le plus décoré de mon régiment. Convalescent, je rencontre Marthe, à l'opéra de Béziers. Ma première rencontre avec l'amour, un amour impossible. La colère de ma mère si elle avait su que je voulais épouser une divorcée. Vite, je veux retrouver la guerre, le front, je veux m'échapper. Et puis, lors d'une attaque allemande, moi, le lieutenant Bousquet, je ne sais pourquoi, tous reculaient. Alors j'ai compris. C'était fini. Et je suis restée debout. Une balle dans la colonne vertébrale, ma moelle épinière coupée, mes jambes paralysées. Une unique balle mettra 32 ans pour me tuer. Seule, couchée dans mon lit, j'ai atteint des hauteurs telles que j'ai creusé le ciel. Enfermée dans ma chambre, enfermée dans mon corps, je rayonne dans cette lumière immobile. Le mal comme le bien a son ciel en moi. Et je connais la voluptueuse satisfaction de n'être médiocre en rien. Chaque jour, je redécouvre que j'ai été blessée, que je suis blessée, et je dois à cette blessure d'avoir appris que tous les hommes étaient blessés comme moi. Je suis née le 19 mars 1897 à Narbonne. J'ai été touchée par une balle à la colonne vertébrale le 27 mai 1918 à Vailly-sur-le-Front. J'avais 21 ans. Pendant plus de 30 ans, Joé Bousquet vivra reclus dans sa chambre. Il aurait pu sortir en fauteuil roulant, mais il ne le voulait pas. Il préférait rester alité dans son lit, avec le plus souvent les volets de sa chambre clos. Son mobilier, un petit guéridon rond, plein de médicaments, une table pour les manuscrits et la bibliothèque basse, quelques tableaux et des lampes toujours allumées. Il avait fait de sa chambre sa coquille, sa seconde peau. Il s'évadait avec les paradis artificiels du moment, l'opium. Et il s'enivrait aussi avec les doux parfums de ses visiteuses, car bien des femmes furent attirées par cet être si mystérieux. Les intellectuels du moment aussi se lient d'amitié avec lui. Aragon, Gide, il entretient également des correspondances avec des peintres, des poètes. Des toiles qui agrémentent les murs de sa chambre ne sont autres que ceux de Paul Klee, Max Ernst ou encore Magritte. Joé Bousquet décédera en 1950 à l'âge de 53 ans. Entrons, si vous le voulez bien, dans la chambre obscure de ce fameux Joé Bousquet, en compagnie de Édith de la Héronnière, auteure de Joé Bousquet, une vie à corps perdu. Elle répond aux questions d'André Orango, membre de l'Académie nationale de médecine et petit-neveu de Joé Bousquet. Cette rencontre avait lieu dans le cadre de la journée du livre à l'Académie nationale de médecine, qui avait lieu en septembre 2006. On écoute, si vous le voulez bien, ces deux intervenants.
Avant de commencer, je voudrais lire quelques lignes qui ne sont pas dans le livre dont on va parler. On s'habitue à tout. Une balle avait troué ma colonne vertébrale à la hauteur de mes épaules. J'avais été jeté par le choc dans un suaire de glace qui s'était aussitôt défait, mais à peine, et ne libérant que mes bras. Sans doute mes médecins connaissaient-ils mon mal, mais mon mal me connaissait mieux qu'eux. Je le sentais en moi comme une existence étrangère. En me pénétrant, mon infirmité se rendait impénétrable, obscure comme mon propre corps qui, depuis toujours, semblait l'avoir attendue et paraissait se lier à elle sans me voir, me tenir pour rien dans ses noces sans nom d'une existence et de sa peine. Joé Bousquet a 46 ans, cela fait 26 ans qu'il est immobile, partageant sa vie entre Carcassonne et Villalier, un petit village qui est à 7 km de Carcassonne, reclus, écrivant et ouvert sur le monde. Édith de la Héronnière, donc nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Et j'ai lu votre livre avec une très grande émotion, une émotion double. Tout d'abord, ce livre m'a été révélé par les personnes de l'Académie qui ont organisé cette journée du livre, et je les en remercie beaucoup. Cette émotion, elle vient de deux choses. La première, c'est que Jo Bousquet était le frère de ma grand-mère, et vous parlez de personnes, de lieux, que je n'ai pas au sens strict connu personnellement, enfin en tout cas pour Jo Bousquet, auquel j'ai été présenté quand j'avais un an, avec de sa part d'ailleurs un inintérêt absolument total et compréhensible, mais dont j'ai entendu parler toute mon enfance. J'ai joué dans les lieux où il a vécu, et j'ai été tout d'abord très frappé par cette différence entre ce que je me rappelle des souvenirs que m'a confié ma grand-mère, etc., et peut-être d'ailleurs par la différence qu'il y a entre mon regard sur sa vie, qui restait un regard d'enfant, et votre regard à vous, qui est un regard d'adulte. Et la deuxième raison, c'est qu'il s'agit véritablement d'un livre extraordinaire. J'ai lu beaucoup d'œuvres de Jo, j'ai lu des biographies de lui, et c'est la première fois que je lis, sous votre plume, un texte d'une telle acuité, d'une telle intelligence, d'une telle pénétration du personnage, à travers, pratiquement exclusivement, à travers une œuvre que vous connaissez remarquablement et qui est tout de même particulièrement abondante et difficile d'abord, difficile d'accès pour beaucoup de ces livres, pour essayer de cerner une personnalité qui est extrêmement complexe. Donc ma première question, c'est pourquoi cette passion pour Jo, pour mon grand-oncle, et qui était Jo Bousquet? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, puisque c'est quand même pas un personnage extrêmement connu?
Oui, très très peu connu même, mais je dois dire que j'ai commencé par lire ses lettres à Poisson d'Or, et ce qui m'a amené vers lui, c'est un éblouissement littéraire. Ah oui, vraiment un éblouissement d'ordre littéraire et poétique. Et ensuite, je l'ai lu de façon très régulière, en commençant très jeune. Il faut dire que Jo Bousquet a eu une existence très particulière, je dirais même unique. C'est-à-dire qu'à l'âge de 21 ans, il a reçu une balle dans la colonne vertébrale à la guerre de 14 sur le front, et cette balle a traversé les poumons et la colonne vertébrale, donc, et il est devenu immédiatement paraplégique. Donc la blessure a coupé sa vie en deux, et à partir de là il a développé une œuvre. Il a d'abord passé 2 ans à essayer de se soigner, avec l'espoir de sa famille et de ses médecins qu'il allait retrouver l'usage de ses jambes. Et en réalité, tout a été essayé des techniques de l'époque, et au bout de 2 ans, qu'il a appelé, ces 2 années, il leur a donné un nom, le supplice de l'espérance. Et finalement, il a décidé de lui-même de cesser toute tentative de récupération et d'accepter sa nouvelle situation. Et à partir de là, il a fait opérer une sorte de métamorphose intérieure, en considérant sa blessure comme une libération. Et je pense que c'est cette démarche qui l'a conduit toute sa vie, c'est-à-dire pendant 30 ans, il a vécu encore 32 ans jusqu'en 1950, et toute son existence d'homme couché, ignorant l'extérieur, incapable donc de voir d'abord de se mouvoir et puis d'aller vers les autres. Il a commencé une nouvelle vie qu'il a appelée sa seconde vie. Et dès le début, il a commencé à écrire son œuvre poétique, est née de l'amour, en fait. Car Jo Bousquet, avant d'être blessé, a eu une vie extrêmement dissolue, très jeune, et une vie d'enfant terrible. Et finalement, cette autre vie a été pour lui, c'est lui-même qui le dit, une accession à une liberté nouvelle. Et cette liberté nouvelle, c'est par l'écriture qu'il l'a explorée dans ses moindres détails. Donc c'est, l'écriture a été son champ aventureux. Et on peut dire que son œuvre est une sorte de journal ininterrompu, qui est une méditation sur le destin, sur l'amour. Jo Bousquet était un grand amoureux, on va en reparler. Il a été d'abord aimé par les plus belles femmes de Carcassonne, et il a toujours eu autour de lui des femmes qu'il aimait profondément, qui étaient d'ailleurs souvent très jalouses les unes des autres. Et sa première accession à l'écriture, ce sont des lettres d'amour à une femme qui a probablement été à l'origine de sa décision de se lever sous les balles allemandes en mai 1918.
Oui, c'est quelque chose qu'on voit dans sa vie, c'est le choix de son destin. C'est-à-dire que, évidemment, Jo n'était pas, et de très loin bien sûr, le seul grand mutilé de la guerre de 14, mais c'est un exemple assez unique de quelqu'un qui a choisi de faire plus, c'est-à-dire quasiment de s'enterrer vivant. Moi, j'ai souvenir d'avoir joué. C'était mon terrain de jeu, la maison dans laquelle il vivait, qu'on avait investi totalement, sauf sa chambre dans laquelle on avait peur d'aller. C'était une chambre toujours sombre, au volet clos, et dont on n'ouvrait jamais la porte. Lui-même était mort depuis des années. Et ce choix de son destin, il l'a assumé par l'écriture, par le regard, et on le voit déjà, même au moment de la guerre. Edith, vous pourrait nous parler peut-être de l'épisode des bottes rouges. Et on voit chez lui cette espèce de persistance d'un destin joyeux, de quelqu'un de très gai en réalité, et d'une espèce de sentiment de déchéance profonde. C'est une espèce de contraste qui est très saisissant et qui se voit aussi dans son écriture, avec des livres qui sont assez lumineux et des livres qui sont d'une noirceur et d'un pathétique extrême, et d'ailleurs qui se retrouvent jusque dans leur titre, hein, il ne fait pas assez noir. Alors, on va parler peut-être de la littérature, parce que Jo lui-même ne voyageait pas, ne bougeait pas, mais il a fait venir à lui, à Carcassonne, son passé, un très grand nombre d'écrivains, de peintres, dont nous reparlera Jacques-Louis Binet tout à l'heure. Et on voit dans ses proches, dans les gens qui viennent régulièrement chez lui, Aragon. Ma grand-mère m'a raconté que Aragon avait lu pour la première fois le poème Les yeux d'Elsa dans la chambre de Jo. Elsa était présente, était extrêmement gênée. Ma grand-mère d'ailleurs n'avait pas du tout le même jugement sur les yeux d'Elsa qu'Aragon lui-même. Mais bon, passons. Il y avait également Gide, Éluard d'ailleurs, qui venait avec son épouse Gala, qui a rencontré Salvador Dali chez mon oncle, et enfin vous savez comment ça s'est terminé, c'est-à-dire que Dali a quitté Éluard pour vivre, enfin Gala, pardon, a quitté Éluard pour vivre avec Dali. Et puis des peintres, et parmi lesquels il faut citer donc Max Ernst, qui est une espèce de jumeau tragique en peinture, puisque ils ont pu reconstituer que Max Ernst, l'Allemand, était en face de la compagnie de Jo quand il était monté à l'assaut et qu'il a été blessé par cette balle qui lui a fracturé la colonne vertébrale au niveau probablement du corps des quatre. Hein. Bon, et puis on peut citer également Poland, Missler, Simone Veil, et toute une activité littéraire au travers des Cahiers du Sud et de Gallimard. Donc, ma question à Edith, c'est... On a l'impression d'une espèce de passeur, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui, contrairement à beaucoup de rescapés de la guerre, se voit comme quelqu'un de mort, une espèce de mort en sursis. La mort est omniprésente et pourtant c'est quelqu'un de très vivant. Les gens viennent à lui, et on parlera des femmes tout à l'heure, mais les gens viennent à lui. Pourquoi est-ce que autant de gens ont fait le voyage, Carcassonne, même maintenant c'est compliqué pour y aller, donc à l'époque n'en parlons pas, et puis malgré tout une notoriété qui reste très restreinte à un cercle relativement réduit d'amateurs de la littérature.
Oui. En fait, Jo Bousquet, très tôt, étant donné ses dons littéraires exceptionnels, a fait partie de l'équipe des Cahiers du Sud, qui était la grande revue du sud de la France, la revue de poésie, qui a découvert une majeure partie des poètes de cette époque. Et Jo Bousquet a très très tôt dans sa vie, à 25 ans, été un des critiques littéraires essentiels des Cahiers du Sud. Et comme ça, il a été amené à être en contact avec tous les poètes et écrivains de sa génération. Et puis, de fil en aiguille, ce qu'il écrivait sur les auteurs était tellement remarquable que les auteurs désiraient le rencontrer et se demandaient, sachant pas toujours que c'était un homme enfermé dans sa chambre on venait le voir pour s'entretenir avec lui parce que c'était un causeur extraordinaire, c'était un être très lumineux d'après ce que j'ai pu, les témoignages que j'ai pu lire surtout sur lui, et qui était une sorte de soleil dans cette chambre sombre, pas très grande, que j'ai visitée à Carcassonne, une chambre qui était couverte de toiles, de tableaux des plus grands peintres surréalistes de l'époque. Et on venait discuter philosophie, pour ce qui est des philosophes, poésie pour ce qui est des poètes, et écouter la voix de cet homme qui était une voix éminente du point de vue de la méditation sur le destin. Et il semble que la chambre de Carcassonne ait été une sorte de caméra obscura, si on peut parler, emprunter ce terme de photographie, où les êtres étaient révélés à eux-mêmes. C'est un peu ce que j'ai cru comprendre de tous les témoignages. Et puis, Jo Bousquet partageait son temps donc entre recevoir dans sa chambre. Il recevait tous les jours beaucoup, beaucoup de monde, souvent une dizaine de personnes en même temps. Sa chambre était un lieu de débats philosophiques et artistiques. Et une fois que tous ses invités étaient repartis vers la fin de la journée, il se mettait à l'écriture et il écrivait jusqu'au petit matin, comme Ravel. C'était un grand, grand insomniaque, je crois. Et il écrivait en partageant un temps très, très rigoureux entre l'écriture poétique, l'écriture du journal, la lecture philosophique. Et il écrivait énormément de lettres. C'était aussi un grand épistolier. Et je crois que c'est une part de son œuvre qui m'a profondément séduite, son art d'écrire des lettres. En particulier sa correspondance amoureuse est tout à fait bouleversante parce que Jo Bousquet a toujours été au plus près de ses sensations, de ses perceptions, et il est étonnant de voir comment cet homme qui était profondément blessé, qui souffrait physiquement beaucoup et très souvent, a gardé un goût de la vie, une attention aux autres, un goût de l'amour et une disposition amoureuse jusqu'à son dernier souffle.
Alors ici, on ne peut pas ne pas évoquer Jo et les médecins. Son père était médecin, il était soigné par un de ses cousins qui était ophtalmologiste, qui est quand même une vocation bizarre pour s'occuper d'un paraplégique. Mais on a l'impression que la médecine, sur laquelle il a des discours extrêmement fulgurant, ne l'intéressait en fait pas beaucoup. Et comme vous l'avez dit, il avait renoncé à tout espoir de guérison. Et cette blessure, en définitive, est à la fois omniprésente dans son œuvre et paradoxalement totalement absente. Il n'y a jamais une plainte, je n'ai jamais entendu quiconque l'ayant connu, ayant rapporté qu'il se fût plaint de souffrir, alors qu'il avait escarre, infection urinaire, insuffisance rénale, des crises de qu'on appelait à l'époque des crises d'urémie extrêmement sévères, qui ont manqué plusieurs fois de le tuer, jusqu'à la dernière, qui l'a tué réellement. Et puis, ses médecins étaient un petit peu aussi ses pourvoyeurs de drogue, puisqu'il prenait de l'opium pour calmer ses douleurs. C'est un rapport à la médecine qui est quand même très étrange et un rapport à sa blessure qui l'est encore plus. Certaines fois d'ailleurs on a parlé d'hystérie, et on a mis en doute la longévité qu'il a eue. On est à une époque où il n'y a pas d'antibiotiques, hein, la longévité qu'il a eue pour quelqu'un qui était dans cette situation à partir de 1918. Donc quelques mots si vous voulez.
Oui, enfin, la blessure a été le thème même de son œuvre. C'est-à-dire que cette blessure qui, d'après lui, l'a libérée, a ouvert des champs de conscience qu'il a passé sa vie à explorer. Et en particulier, la conscience d'un homme blessé et le regard que les autres portent sur l'homme blessé. Et il a véritablement découvert ce champ et cet abîme entre le regard de l'autre et sa propre conscience de lui-même. Et c'est très très intéressant parce que, et c'est ça qui m'a passionnée dans son œuvre, c'est que en fait l'homme lui-même ne se considère pas comme blessé, étant donné l'extraordinaire sensibilité et champ d'exploration qui s'ouvre à lui. Donc tout ça, c'est pour lui le motif d'une recherche infinie qui est une recherche qui passe chez lui par le langage, mais qui est en quelque sorte inépuisable. Donc on a l'impression en le lisant que sa vie ne suffira jamais à aller au terme de cette expérience d'homme enfermé, couché, et qui finalement va jusqu'à dire que tous les hommes sont blessés. En fait, Jo Bousquet ne s'est jamais appesanti sur ce qu'on pourrait appeler son ego ou son moi, mais au contraire, il a transformé son destin personnel, qui était un destin vu par le monde comme profondément malheureux, une leçon d'humanité en quelque sorte, et en une découverte de ce dont la vie est capable, et des possibilités de vie extrêmes. Moi je le considère un peu comme un aventurier de la conscience, un peu comme Proust, mais de façon moins structurée, parce que il a dit souvent, il a fait souvent cette remarque, et en particulier à André Breton, qui a été médecin lui-même au Val-de-Grâce, qui a été neuropsychiatre. Il disait que son corps blessé l'empêchait de construire une œuvre. Et c'est bien ce qui s'est passé. Son œuvre est très peu construite. Elle est une sorte de jaillissement, mais elle n'a pas le côté structuré qu'ont en général les œuvres littéraires. Enfin, lui-même, en plus, avait absolument horreur de la vie d'écrivain professionnel. Il aurait détesté ça.
Voilà, donc on on va conclure, ça s'appelle « Une vie à corps perdu », on pourrait presque dire, comme nous le disait notre ami tout à l'heure, « Une vie à cire perdue » où la forme s'évanouit pour donner naissance à une autre personnalité. Je vous avais posé la question des livres que vous conseilleriez pour aborder Jo Bousquet. Vous m'aviez répondu « Les lettres à poisson d'or » et le médisant par bonté. Alors maintenant peut-être si...
Oui, alors dans cette vie à corps perdu, il a été accompagné par des peintres. Ce qui est assez étonnant puisqu'il vit à Carcassonne. Carcassonne, c'est pas Florence, c'est pas non plus Paris. Bien malgré ça, grâce à des catalogues, grâce à son amitié pour Paulhan et à ses relations avec le monde de Gallimard, et bien qu'il n'ait pas été milliardaire, il a acheté d'admirables tableaux. Il en avait 40, je crois. Je vais simplement vous en montrer 4 ou 6 parce que... Alors d'abord, il y a l'histoire Max Ernst avec un mythe. Vous savez que Mansers a prétendu qu'il a vu, mais Max Ernst est un surréaliste, qu'il a vu Jo Bousquet blessé et qu'il a remarqué. Il était du côté allemand. Ils étaient au même endroit. Et Jo Bousquet avait des bottes rouges. Ouais, le côté un peu provocant. L'armée française était colorée en 14, mais en 18, ils étaient tous en kaki. Bon, lui avait des bottes rouges. Et il aurait fait arrêter le feu quand il a vu qu'un officier français était blessé, avait des bottes rouges. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, peu importe. Il y a un autre témoignage très important qui définit le surréalisme. Max Ernst voit et chez Bousquet, Bousquet voit Max Ernst travailler. Et voilà ce qu'écrit, non pas Bousquet, mais Max Ernst. Le tableau devait sortir du divan. Il s'agit d'un divan. Il dit, est-ce que je peux travailler sur le prendre le divan comme modèle? Le tableau devrait sortir du divan, découvrir les gemmes de l'art dans l'objet et non dans le poète. Le découvrir comme une propriété de l'espace et du temps. La poésie n'est pas dans le poète, elle est un attribut caché de l'objet. Et ça, c'est une grande théorie de Max Ernst. C'est qu'en réalité, et il prend même des physiciens, en réalité, le surréalisme n'est pas dans nos rêves. Il est dans le monde extérieur. D'après la physique qu'il avait cru comprendre, il n'y a plus de limite entre un objet et ce qui l'entoure, et c'est ce monde intermédiaire qu'il faut voir. Voilà, ça c'est un deux. Alors la troisième chose, parmi les... Il avait 11 tableaux de Max Ernst, alors je vous en montre un, qu'on appelle la forêt. Bon, vous savez qu'une des révolutions de l'art contemporain a été le plan. C'est fini, plus de perspective, et bien voilà, la forêt, 1927, c'est-à-dire que ça a été peint juste un an après la rencontre avec Bousquet. Et il écrit « Image enfin nue comme un miroir sans fond, où la matière ligneuse se renouvelait comme un million d'oiseaux d'air dans une cascade. » Vous voyez, ça c'est le plan. Il y a une autre forêt qui est peut-être plus intéressante, la suivante s'il vous plaît, la suivante, qui est intitulée « Les oiseaux qui ne peuvent pas voler ». Mais en réalité, toute la toile est envahie, aveuglée par cette triple palissade. Et de nouveau, on voit les plans. Premier plan, du bois naturel en surface, avec un fond de tiges verdâtres et les troncs blanc clair projetés en avant, rugueux, ça et là, transparent et dépourvu de consistance, ajoutant à la peinture ce caractère tremblé qui la donne toute pour un lourd miroitement matériel. Vous savez que Max Ernst s'est rendu célèbre en inventant le frottement, c'est-à-dire en prenant du papier, en frottant avec son crayon le sol et en découvrant une nouvelle structure. Eh bien là, pour Bousquet, vous voyez que le premier plan, qui est un plan jaune, est totalement, il retrouve avec la peinture ce qu'était le frottement. Voilà pour les relations avec Max Ernst. La diapositive suivante vous montre alors un autre tableau avec Picabia, totalement oublié maintenant, admirable peintre. Bon, suivant. Alors ça, c'est très intéressant, c'est Dubuffet. Dubuffet, 1944. Bon, tableau assommant comme thème, la haute négoce. Dubuffet était un marchand de vin, qui savait ce que c'était que l'argent, et qui s'est arrêté de peindre pour regagner de l'argent. Donc, il peint ce tableau qui nous paraît un peu banal, avec ses personnages bizarres, c'est toujours la même chose, on travaille sur le plan. Alors, l'interprétation de Bousquet est à la limite. C'était un grand critique d'art. Personnellement, je n'arrive pas à lire ses poèmes, je comprends pas. Mais quand il écrit sur la peinture, il est lumineux. Et il compare ce tableau au négoce de 1944 au tableau suivant de Klee. La suivante, s'il vous plaît. qui s'appelle Jardin du garde-barrière, et il compare les couleurs. Couleur contre couleur. Chaque couleur est plus franche, comme si elle n'avait pas eu à s'affranchir de la lumière, alors que dans Clé, le tableau qui est ici, un air de Mozart endormi règne sur les couleurs. Il y a que des gens comme Malraux qui voient ça. De faire une relation. On peut prendre la diapositive précédente. Vous remettez derrière. Regardez. Avoir su faire des relations entre ces couleurs et la suivante et celle de Clé, ben il faut être un œil, quoi. Un grand œil. Bon. Dernière toile. Je vais vite. Alors ça, c'est Bousquet en réalité. Tout ça, c'est consigné dans un admirable petit livre qui a été écrit par Pierre Cabanne, où il a travaillé cette fameuse collection qui est malheureusement dispersée. Le voilà dans sa chambre. Bon, ben voilà, il est dans sa chambre avec des livres. Et ensuite, il va être peint, dessiné par Dubuffet, avec une exposition qui était très célèbre, 1947, la Galerie Drouin. Et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà comment il définit sa notion du portrait. La prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Voilà le même dans son lit. Et voilà comment Dubuffet l'écrit. Les gens bien plus beaux qu'ils croient ou qu'ils veulent vivent leur vraie figure. Portrait à ressemblance extraite, à ressemblance cuite et confite dans la mémoire, à ressemblance éclatée dans la mémoire de Jean Dubuffet. Il n'y a pas tellement de gens qui écrivent comme ça. Hein. C'est comme Echnos, quoi. Ce sont des gens. Et alors, bien sûr, lisant ça, eh bien, Bousquet est jaloux et il dit, j'aimerais écrire comme Dubuffet. Voilà. Bon, ben écoutez, je crois qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez apporté. Hein.
Vous venez d'entendre l'écrivain Édith de la Héronnière qui défendait son ouvrage « Joé Bousquet, une vie à corps perdu ». Elle répondait aux questions d'André Ourango, membre de l'Académie nationale de médecine et petit-neveu de cet homme écrivain si mystérieux, Joé Bousquet. La biographie de Joé Bousquet, parue en 2006, est disponible aux éditions Albin Michel. Je vous rappelle que cette rencontre entre l'écrivain et le médecin André Ourango avait lieu lors de la journée du livre à l'Académie nationale de médecine en septembre 2006 et avait pour thème les biographies médicales. Retrouvez dans notre médiathèque l'émission Au fil des pages qui résume la dizaine de livres présentés lors de cette journée. Vous découvrirez les destins passionnants de Rousseau, Freud, Ravel, Bartok ou encore les angoisses de Madame de Sévigné. Alors à très vite sur Canal Académie.